Terre, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'intelligence artificielle. Ça va vite, très vite, et le rythme se mesure encore une fois sur le jeu. Après le jeu d'échecs, le jeu de Go, c'est désormais au poker dans une variante très particulière qu'une intelligence artificielle a battu des humains. La spécificité du poker, rappelons-le, c'est le bluff et donc le mensonge, la ruse, la fourberie, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Ces belles qualités qui, jusqu'à présent, assuraient la supériorité du genre humain, nous devons désormais les partager avec les machines. C'est fascinant et je trouve vertigineux. Question donc ce soir sur ces machines qui jouent et qui pensent, sur leur progrès exponentiel, sur la grande bataille mondiale pour développer ces intelligences artificielles. Amis auditeurs, des êtres humains vous répondent jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour ceux qui préfèrent le téléphone. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Paris.
Oui, merci de me recevoir. Moi, le poker, pour parler d'intelligence artificielle, je suis un peu sceptique, voire désabusée, parce que, bluffer, avoir une logique de gagnant, avoir de la mémoire, tout ça, c'est... Ok, on peut programmer un ordinateur pour ça. Est-ce que c'est de l'intelligence? Ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, elle ne peut être que en relation avec un autre être. L'ordinateur, il se pose aucune question. Il est programmé pour battre quelqu'un, il bat quelqu'un. Je sais pas si c'est
donc
très porteur.
Donc ça manque d'interaction pour vous, c'est ça Isabelle? La capacité de l'ordinateur à changer de pied?
C'est juste quelqu'un va prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est une performance. Mais sur le plan humain, qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, c'est la question de l'intelligence, pas seulement artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle intelligence? Pour moi, une intelligence, c'est global. Je crois qu'on parlait de Todorov qui vient de décéder. Il parlait d'un être global, entier. Donc moi, je trouve que déjà les hommes ont du mal émotionnellement à s'adapter les uns aux autres. Moi, je serais conquise, je serais étonnée quand il y aura un ordinateur qui saura être intelligent, mais en plus qui saura s'adapter émotionnellement.
Éprouver donc des émotions. Merci Isabelle pour cette question très vaste et profonde sur le plan philosophique. Permettez-moi de vous présenter les invités du téléphone sonne pour vous répondre. Bertrand Braunschweig, bonsoir. Vous êtes ingénieur directeur du centre de recherche INRIA Saclay-Île-de-France. Jean-Gabriel Ganassia, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université Pierre et Marie Curie, chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6. Morgane Tual, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste chez les Pixels, au pôle Pixel du quotidien Le Monde. Qui veut répondre à cette première critique de fond sur l'intelligence artificielle, sur l'idée même d'intelligence?
Bertrand.
Oui, Bertrand Braunschweig, allez-y.
En fait, si on regarde comment est, sur l'exemple de ce jeu, du jeu de poker, l'ordinateur, dans ce cas-là, il a été programmé pour apprendre à jouer. C'est-à-dire que on lui a fait ingurgiter un certain nombre de données, de parties. Il a beaucoup, beaucoup joué, il s'est entraîné tout seul. Donc ça s'appelle de l'apprentissage par renforcement. Il apprend des parties, et à la fin de la partie, un système externe lui dit s'il a gagné ou s'il a perdu. Et à force de recevoir des signaux de feedback, de rétroaction sur le fait qu'il gagne ou qu'il perd, il finit par se développer une stratégie. Donc en fait, c'est pas tellement le programmeur qui est derrière qui a défini la stratégie, c'est l'ordinateur qui, à force de jouer au jeu, se fait sa propre stratégie et arrive, sur des cas bien particuliers comme certains jeux, à battre les meilleurs opérateurs humains. Dans le cas précis du poker, il se trouve que c'est la combinaison de plusieurs technologies, en fait. Il y a d'une part cet apprentissage par renforcement, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, le système lui dit à la fin tu gagnes ou tu perds et il en tire des enseignements. Mais il y a aussi une partie très importante en complément qui est que souvent dans les jeux, on essaye de trouver la résolution de ce qu'on appelle les fins de partie. C'est-à-dire que quand on arrive près de la fin de partie, on peut commencer à examiner toutes les possibilités, il n'y en a pas trop. Et à ce moment-là, l'ordinateur peut aussi se bâtir sa stratégie de fin de partie qui lui permet de gagner.
Morgane Tual, du quotidien Le Monde.
Ce qui est très intéressant dans ce que dit cette auditrice, de ce que vous dites, c'est qu'elle pose aussi la question de c'est quoi l'intelligence artificielle, de quoi on est en train de parler. Parce que effectivement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est cette espèce de fantasme d'une intelligence artificielle qui serait égale ou supérieure à l'humain? Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui serait capable d'avoir des émotions? Vous avez parlé d'émotions, d'interagir avec les humains. Est-ce que c'est simplement être capable d'imiter certaines fonctionnalités, comme le fait d'être capable de jouer au poker ou de faire certains calculs. Donc je crois que ça, c'est vraiment une question essentielle dans le débat, c'est de savoir déjà de quoi on parle. Et là, on a deux éminents spécialistes qui peuvent peut-être répondre à cette question.
Oui, alors sur cette partie de poker, commençons là-dessus et on ouvrira ensuite le champ de la discussion. Sur cette partie de poker, quel type d'intelligence a été mobilisé ? Est-ce que c'est de l'intelligence ou est-ce que c'est justement, enfin, une masse d'informations digérées et qui produisent ensuite tel et tel résultat aux cartes ?
Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ?
C'est une déjà l'humaine, c'est difficile.
À laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Et l'intelligence artificielle est là pour ça. C'est une discipline scientifique qui est née il y a un peu plus de 60 ans, 56 exactement, avec comme projet de mieux comprendre l'intelligence en utilisant les ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas une intelligence, c'est-à-dire qu'on ne dote pas une entité d'intelligence globale, mais on prend toutes les facultés les unes après les autres, et on va essayer de les décomposer et puis ensuite de les simuler. Et c'est ce qu'on fait depuis 60 ans, et ça a donné énormément de résultats scientifiques et puis ensuite des résultats pratiques, puisqu'on peut utiliser ces modules dans tout un tas de dispositifs qu'on a à notre service, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la voix, le web lui-même, c'est un modèle de mémoire. Alors pourquoi les jeux ? Vous allez me dire, les jeux c'est futile, pourquoi est-ce qu'on fait ça hein ? C'est peut-être un peu la question d'ailleurs de l'auditrice. Hein ? Et bien parce que les jeux c'est un terrain d'expérimentation. L'un des pionniers de l'intelligence artificielle, John McCarthy, a dit « Les jeux, c'est la drosophile de l'intelligence artificielle ». Vous savez, cette petite mouche qu'utilisent les biologistes hein, pour faire de la génétique, et ben c'est ça. Alors, on a commencé par des jeux combinatoires, où il fallait explorer beaucoup de possibilités, c'était le cas du jeu d'échecs, et on a fait beaucoup de progrès, hein, à la fois avec des aspects mathématiques, hein, des techniques qu'on appelle heuristiques, hein. Et puis ensuite, on s'est... avant qu'une machine batte le meilleur joueur au monde, il a fallu qu'elle bosse. Ça ne s'est fait qu'en 97. Alors vous allez me dire, c'est vieux, 97, ça fait 20 ans. Ben oui, d'accord, mais il a fallu 40 ou 50 ans. Hein. Il y a eu des paris, des défis. Et puis ensuite, on s'est attaqué à des jeux plus difficiles. L'un des jeux les plus difficiles, qu'on pensait inaccessibles, c'était le jeu de Go. Et puis, ben, en 20 ans, on est arrivé à l'emporter sur le meilleur joueur. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des jeux à information complète, parce que vous avez l'échiquier, et vous voyez exactement toutes les pièces, leur disposition, donc c'est quelque chose, bien sûr, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et ensuite, on s'est intéressé à d'autres jeux, on l'avait fait d'ailleurs un tout petit peu avant, comme le jeu de poker ou le jeu de bridge, qui sont des jeux dans lesquels l'information n'est pas complète. On ne sait pas tout ce qu'il y a. Mmh. Et c'est une modélisation de certains aspects de la réalité. Mais il faut bien comprendre que le jeu, c'est en miniature une réalité beaucoup plus vaste. D'ailleurs, le jeu d'échecs lui-même, quand il était inventé, hein, vous connaissez hein, l'histoire de l'invention, c'était un brahman qui voulait expliquer à un prince qu'il ne fallait pas simplement faire confiance aux hauts dignitaires, que l'ensemble des pièces avaient de l'importance. C'est pour ça qu'il y avait des pions, des fous, des tours, etc.
Le bluff, c'est quoi pour une machine ? Bluffer au poker ?
En fait, on n'a pas vraiment l'impression que la machine a conscience de bluffer. Parce que la machine, elle apprend à jouer, comme on l'a déjà dit, et elle se développe ses stratégies qui incluent éventuellement quelque chose que nous, on est capable d'analyser comme du bluff, mais la machine n'a absolument aucune conscience. Elle a simplement trouvé au fur et à mesure de ses apprentissages qu'en jouant de cette manière-là, elle avait plus de chances de gagner qu'en jouant autrement. Donc la manière dont nous l'interprétons, qui est de dire la machine bluffe, c'est notre interprétation à nous, êtres humains. La machine n'a absolument pas conscience qu'elle est en train de bluffer.
Mais alors elle fait quoi ? Comment c'est modélisé ? Parce que le bluff, c'est tout de même une opération mentale sophistiquée qui consiste à cacher son jeu, justement, ou à mentir de manière subtile, envoyer des contre-signaux. Enfin ça, pour un être humain, j'imagine que c'est une opération assez complexe. La machine la traduit comment ? Elle en fait quoi ? Des statistiques ?
Tout à fait.
Jean-Gabriel Galassia.
Elle fait des statistiques, exactement. Elle regarde dans telle situation, qu'est-ce qu'il vaut mieux jouer ? Alors, elle explore énormément de parties et elle s'améliore progressivement. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Et puis, en plus de ça, elle a un tout petit peu d'aléatoire. Elle sait être imprévisible, ce qui déroute d'autant plus l'adversaire. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a un jeu classique qui est le jeu de pierre-ciseaux-papier. La théorie des jeux dit que la stratégie optimale, c'est d'être aléatoire. Nous avions développé, il y a une quinzaine d'années de cela, avec un de mes étudiants, Christophe Meyer, un système qui apprenait ce que faisait l'adversaire. On commençait à jouer. En général, c'était kiff-kiff. Ensuite, on commençait par gagner. Et puis, la machine était capable de percevoir des régularités dans notre jeu à notre insu. On croyait être aléatoire, on n'était pas aléatoire, et la machine le voyait, et ensuite elle nous gagnait. Et bien, c'est un peu ça.
Allez, Gilles nous appelle de Martinique. Bonsoir Gilles, bienvenue dans le téléphone sonne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ma question, elle est simple, basique et naïve à la fois. C'est qu'on sait que dans tous les jeux, on peut tricher, même si comme pour le backgammon, c'est plus difficile. Hein, mais le poker, on sait. Alors, est-ce que pour tricher l'ordinateur, on peut le faire tout seul ou est-ce qu'il doit être programmé par un humain? Voilà la question.
Merci Gilles, elle est d'une profondeur vertigineuse. Qu'en est-il de la triche au jeu?
Il y a des règles dans un jeu. Tricher, c'est ne pas respecter les règles. Cacher une carte, la faire tomber par terre, la mettre dans son chapeau. La machine n'a pas de chapeau et elle est asservie aux règles qu'on lui a données. Donc, en ce sens-là, elle ne peut pas tricher. En revanche, effectivement, elle peut faire croire quelque chose. Ça, oui, ça, c'est...
La machine peut faire croire. Ça, je n'arrive pas encore à me figurer la chose parce que bluffer, c'est faire croire. C'est tromper et faire croire. Donc, la machine peut faire croire.
Ah bah bien sûr, parce que dans ses actions, elle peut laisser entendre, mais elle ne le saura pas, elle ne sait pas qu'elle ment, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est que la vérité. Mais en tout cas, il se peut très bien qu'elle se soit rendue compte qu'une telle attitude dans un tel contexte avait tendance à la faire gagner. Et donc à ce moment-là, elle peut l'adopter.
J'ai lu dans Le Monde, Morgan Tual, que cette machine au poker jouait comme un martien. C'est ce que j'ai lu. Que bon, en face, on jouait comme des humains et que la machine, en fait, jouait au poker de manière totalement imprévisible, inédite.
Et c'est ce qui s'était passé aussi un petit peu au Go, puisque effectivement, bah, la machine ne va pas forcément toujours jouer comme les humains et que c'est très très déstabilisant. Et comme dans les jeux, il y a souvent un aspect psychologique qui est assez fort dans un duel, donc c'est le cas au Go, j'imagine que c'est le cas au poker aussi. Et bah, comme la machine ne réagit pas comme un humain, du coup, on se retrouve complètement déstabilisé en face parce qu'on se dit, bon là, c'est évident, il va faire ça, mon opposant va faire ça. Et en fait, se retrouve à faire quelque chose de complètement différent. Donc en plus... Peut-être que parfois, la machine peut avoir cet avantage, c'est incroyable à dire, mais peut-être une forme d'avantage psychologique sur une machine, alors même qu'elle n'a pas de... Sur un humain, alors ouais. Même qu'elle ne dispose pas de psychologie.
Bertrand Braunschweig.
Oui, on peut compléter, en fait. On se rend compte actuellement de la puissance de ces systèmes d'apprentissage automatique.
Voilà, il faut insister là-dessus.
Hein. Oui, oui. Parce que cette machine de Go, elle est partie sans avoir la moindre règle donnée par un quelconque programmeur humain. Elle a commencé vraiment aléatoirement et c'est au fur et à mesure du jeu, simplement par le fait d'apprendre, de faire énormément d'essais, d'erreurs, qu'elle a fini par se développer cette stratégie sans qu'elle n'ait jamais donc pris connaissance des meilleures règles, des meilleurs joueurs de poker. Et en fait, c'est en train d'arriver un peu dans tous les secteurs, c'est que l'apprentissage machine, qui était quelque chose, une discipline de recherche très intéressante, mais qui n'avait encore pas beaucoup de résultats il y a une vingtaine d'années, s'est énormément développé. Ne serait-ce qu'avec le volume de données dont on dispose sur les réseaux et venant des capteurs de l'Internet des objets, par exemple, on dispose de beaucoup, beaucoup de données. Donc, les machines sont maintenant alimentées en données et peuvent, à partir de ça, faire des apprentissages qu'on n'avait absolument pas imaginés, ce qui demande d'ailleurs des ressources de calcul extrêmement importantes.
Donc, on peut répondre par la négative, si je vous ai bien compris, à la question suivante qui nous vient de Julien Éclair de la Drôme par courrier électronique. On dit souvent que l'ordinateur a battu le champion le temps d'un match, les opposants. Derrière l'intelligence artificielle, ce sont bien des ingénieurs qui sont à la manœuvre, qui l'ont conçue, cette intelligence. C'est donc un combat homme-homme avec un ordinateur en interface. Vous venez de dire, Bertrand Braunschweig, que les machines apprenaient toutes seules.
Les machines sont programmées pour apprendre. Au départ, il y a une programmation venant d'un opérateur humain.
Oui, tout
Jean
à fait.
Jean-Gabriel Ganassia.
Elles apprennent toutes seules de deux façons. Elles apprennent toutes seules en jouant contre elles-mêmes. Et donc, elles se perfectionnent et elles apprennent toutes seules en regardant la façon dont les hommes ont joué. Et donc, elles copient quand même d'une certaine façon ce que font les hommes. Mais ce qui est nouveau, c'est que avec l'apprentissage, il n'est plus nécessaire de codifier la connaissance des hommes pour la mettre dans la machine. Les machines sont capables de l'extraire automatiquement.
Mais comment ?
Eh bien, avec ces techniques d'apprentissage, elles observent. Alors, il y a différentes techniques, il y a des techniques d'apprentissage qu'on appelle supervisées, c'est-à-dire on donne tel exemple, on dit ça c'est bien, tel autre ça c'est mauvais, et à ce moment-là elle apprend ce qui est bien et ce qui est mauvais dans tel contexte, ou alors l'apprentissage par renforcement, elle a une récompense, elle se rend compte que elle va gagner plus en jouant tel coup dans telle situation, et puis moins dans telle autre situation, et donc elle va se dire ah ben tiens, je vais essayer de jouer plus souvent de cette façon-là.
Étienne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Corrèze, soyez le bienvenu.
Oui, merci. Donc moi, je voulais juste... j'avais deux points. D'abord, je trouve que le mot « intelligence » est très, très galvaudé. Actuellement, on l'utilise à toutes les sauces. On parle de frigo intelligent, on parle de trucs comme ça. Or, c'est, il faut quand même définir ce que c'est que l'intelligence. C'est un ensemble de... C'est un ensemble de choses. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence... Pour l'instant, on ne parle que de rapidité de calcul et de stockage d'informations pour l'ordinateur. C'est formidable, il fait ça très bien. Mais il n'a pas d'intelligence musicale, il n'a pas d'intelligence d'adaptation dans un environnement donné complètement aléatoire, comme l'être humain ou comme l'ont les animaux. Ça, c'est le premier point sur l'intelligence, je trouve. On utilise ce terme pour faire attention. Parce qu'en plus, on dit aux petits-enfants qui sont pas capables de retenir leur table de multiplication, on leur fait comprendre qu'ils sont pas intelligents. Mmh. En même temps qu'on dit que le frigo est intelligent. Donc c'est très dangereux, quoi. Bon, surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'arrivera pas à l'intelligence artificielle parce que on n'a pas eu le débat dans la société et on trouvera personne capable de donner suffisamment d'autonomie à un programme, quel qu'il soit, même s'il a beaucoup, beaucoup de profondeur, de connaissances et beaucoup d'expérience. On lui donnera jamais une autonomie suffisante pour que ça puisse vraiment s'apparenter à de l'intelligence. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Ah, vous vous faites très bien comprendre. Moi, je ne suis pas spécialiste, Étienne, mais dire jamais en matière d'intelligence artificielle, les machines n'auront jamais l'autonomie, etc. Je pense que là-dessus, on va pouvoir discuter. Discuter. Merci d'être intervenu. Alors, les frigos intelligents, les objets intelligents, les etc., etc. C'est un abus de langage déjà pour commencer là-dessus. Alors, Jean-Gabriel Ganassia.
Ça dépend ce qu'on entend, bien sûr, par intelligence. Nous, dans le domaine qui est le nôtre, on suppose que c'est l'ensemble des facultés cognitives. Alors ça peut être la compréhension, ça peut être le raisonnement, ça peut être la démonstration. Ça peut s'étendre un tout petit peu aux facultés affectives et émotionnelles. Alors ça ne veut pas dire qu'une machine va ressentir, mais elle va se comporter comme si elle ressentait quelque chose. Et bien sûr, depuis 60 ans, ce qu'on essaye de faire, c'est de modéliser ces différentes facultés. Et on y arrive. Et donc dire que ça n'existe pas, c'est faux, puisque ça a transformé le monde. Il faut bien prendre conscience que, par exemple, le web, que la plupart d'entre nous utilisons, c'est construit à partir d'un modèle de mémoire. Et c'est de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'hypertexte. D'ailleurs, vous savez que le langage d'écriture des pages web, HTML, c'est Hypertext Markup Language. Et le protocole de communication du web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est lié à l'hypertexte. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, vous prenez vos téléphones portables, et vous avez, par exemple, la reconnaissance d'empreintes digitales, c'est de l'intelligence artificielle. Alors ensuite, il faut juste corriger une petite chose quand on dit qu'elles ne sont pas capables de s'adapter, mais justement, l'apprentissage par renforcement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de l'adaptation, donc les machines sont capables de s'adapter.
Bertrand Braunschweig.
En fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a tendance à distinguer entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible.
Alors, distinguer,
l'intelligence artificielle forte, en gros, c'est l'équivalent de la nôtre. C'est-à-dire qu'un être humain est capable de se débrouiller dans un environnement complexe, sans en avoir eu connaissance a priori, de faire des tas de tâches différentes en même temps et de s'adapter, etc.
Ça, il y a des machines qui
Non, on n'a pas de machine qui soit capable de faire ça. Mm-hmm. L'intelligence artificielle faible, qui est celle qu'on pratique aujourd'hui, c'est, disons, sur un ensemble de problématiques qui sont bien identifiées, comme les jeux, comme la prise de décision, comme la planification, comme un certain nombre d'autres problématiques de ce genre, de faire progresser le niveau des machines de manière à, effectivement, reproduire le comportement des meilleurs opérateurs humains. On en est là. L'intelligence artificielle forte, c'est une image, c'est aussi une peur pour pas mal de monde. Franchement, on en est très loin. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer complètement le sujet, mais on peut quand même, disons qu'il faut peut-être
voilà,
faire juste
un peu
attention.
Il y a des questions éthiques, je pense, celles que voulait souligner Étienne. On va y venir maintenant. Morgane Tual.
Oui, je voulais juste revenir sur ce que disait Étienne concernant... il a évoqué la notion d'intelligence musicale et qui pose aussi des questions sur qu'est-ce qui est du domaine exclusif de l'humain et qu'est-ce qui peut être imité par la machine. Et par exemple, on a vu ces derniers temps beaucoup de musique créée par des programmes d'intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant. Il y a des albums entiers qui sont sortis de musique qui donnent des choses parfois étranges et parfois pas tellement étranges et qui notamment se basent sur de l'imitation. Donc en fait, qui vont imiter, qui vont écouter des tas de chansons des Beatles, par exemple, ou du Mozart, ou peu importe, et qui vont être capables de faire des choses qui ressemble assez. Et là, ça pose la question de la créativité. On se dit, c'est quelque chose de totalement, fondamentalement humain, la créativité. Et ça pose encore la question de, finalement, c'est quoi la créativité? Puisque visiblement, cette machine est capable de créer. Oui, mais elle crée à partir de quoi? Elle crée à partir de données humaines, puisqu'elle s'est basée sur des musiques déjà existantes. Et en fait, quelque part, nous, quand on crée, est-ce qu'on se base pas aussi? Quand on parle quand on demande aux artistes de qui ils se sont inspirés, c'est quoi leurs grandes inspirations? Est-ce que quelque part, c'est pas le même fonctionnement de ces machines qui vont écouter les Beatles ou Mozart et refaire quelque chose qui ressemble, mais qui est quand même un petit peu différent.
Oui, ça s'appelle la culture, hein, tout simplement. Jean-Gabriel Ganassia.
Ah bah là-dessus, nous avions nous-mêmes, il y a un grand nombre d'années, développé un programme qui faisait de l'improvisation de jazz. Hein. On était dans un contexte très particulier, dans un trio rythmique, et le programme générait la ligne de basse. Et cette créativité était construite sur la notion de mémoire. L'idée un peu de l'imagination, c'est-à-dire la combinaison d'éléments passés. Et on avait des choses tout à fait intéressantes, et d'ailleurs on les avait montrées un jour de basse, et nous a dit « Ah oui, tiens, là c'est bien, et puis là c'est peut-être moins bien », on avait corrigé le programme. Donc ça nous permettait de mieux comprendre le métier du musicien et du créateur.
Merci d'écouter France Inter, il est 19h43.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
La parole à la littérature, Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir, moi je suis professeur de lettres et je me demandais si un ordinateur pouvait faire autre chose que justement calculer, travailler à partir de la logique, etc. Est-ce qu'il y avait un rapport au langage? Est-ce qu'il était capable d'analyser un texte? Alors, repérer des images, probablement, mais construire une interprétation, faire des liens, vous voyez ce que je veux dire? Faire une explication de texte, en gros. Est-ce que, si tant est qu'il ait lui-même accès à ce type de langage.
Et la dissertation aussi, hein, peut-être un...
Même travailler avec des concepts philosophiques, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on travaille? Est-ce que c'est même envisageable?
Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette question. Jean-Gabriel Ganassia commence à y répondre.
D'abord, c'est une vieille question. Avant que les ordinateurs électroniques n'existent, nous avions eu un premier ordinateur mécanique imaginaire, parce qu'il n'a jamais été construit, conçu par Charles Babbage, qui était un économiste anglais. Il a eu comme assistante Ada Lovelace, la fille de Lord Byron. Et très tôt, elle a dit « peut-être que cette machine ne fera pas que du calcul mathématique, mais elle traitera des textes ». Effectivement, c'était dans la première moitié du 19e siècle, j'insiste là-dessus, c'est très vieux, 150 ans à peu près. Et bien, aujourd'hui, il y a des disciplines qui s'occupent d'aider les critiques littéraires, d'aider les spécialistes de littérature avec de l'intelligence artificielle. Et moi-même, il se trouve que je suis passionné par ce domaine et nous avons un laboratoire d'excellence entre mon équipe et les équipes de littérature de la Sorbonne sur ce qu'on appelle les humanités numériques, où on cherche à concevoir de nouveaux opérateurs d'interprétation pour les textes. Par exemple, il y a une notion qui est la notion d'intertextualité.
C'est-à-dire le fait que les souvenirs des textes précédents dans le texte qu'on a sous
donc,
les yeux.
Ce que l'on essaye de faire, c'est de les repérer automatiquement. Ou ce qu'on appelle la génétique textuelle.
Comment vous faites pour repérer de l'intertextualité?
On essaye
vous
de
lisez
voir...
enfin la machine ou lis un poème d'Hugo ensuite
Elle essaye de voir s'il y a des emprunts à d'autres textes ou éventuellement s'il y a des éléments qui font écho à des éléments d'autres...
Donc pas simplement un mot, mais des configurations lexicales.
Exactement, des configurations lexicales, syntaxiques, etc. De même, il y a ce qu'on appelle la génétique textuelle, où on essaye de comparer les différentes strates pour essayer de mieux comprendre la démarche des auteurs. Et puis, dans le domaine philosophique, il y a aussi un certain nombre de choses.
Une machine peut disserter, c'était l'une des questions d'Emmanuel. Parce que la dissertation, c'est une méthode, c'est pas de la poésie, la dissertation.
Voilà, c'est un tout petit peu difficile d'avoir une machine qui disserte. On a des machines qui sont capables d'écrire des textes, et en particulier, vous qui êtes journaliste, vous le savez, des brèves qui correspondent à la météo, des choses qui sont peut-être pas passionnantes.
Très important la météo,
Oui, je voulais pas dire que c'était pas important.
Elodie Calac doit nous écouter de Météo France.
Pour écrire des brèves, pas pour
vigilante.
Le présenter avec talent. Ou alors, les cours de la bourse, par exemple, on peut écrire des tout petits textes. Avec des
On a une question de Joël à peu près sur le même thème que celle d'Emmanuel. Est-ce qu'un ordinateur peut faire un bon résumé de roman policier sans contresens? Quelque chose de clair et net. Là, on pourrait parler d'intelligence, nous dit Joël. Bertrand Braunschweig.
résumer tout un roman policier sans faire de contresens, ça me paraît encore un petit peu compliqué. Ce qu'on sait faire...
Mais si une machine peut bluffer, elle peut comprendre la subtilité d'une intrigue.
Ce qu'on sait faire, on sait faire des résumés de textes pas trop compliqués dans un domaine maîtrisé. Ça, on y arrive. On sait également, mais ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, comprendre assez facilement la parole des utilisateurs. Ça, c'est quand vous utilisez votre smartphone et quand vous utilisez Siri, etc., vous êtes toujours compris par la machine qui en profite pour faire ses recherches. Ce qu'on essaye de faire aussi, et ça, par exemple, on a quelques équipes INRIA qui travaillent sur le sujet, c'est du fact-checking. C'est très intéressant en ce moment, hein, puisqu'on est dans des débats politiques assez importants. Hein, et on arrive à ce que les machines, à partir des informations qu'elles trouvent, notamment sur les réseaux, sur un certain nombre de sources, fassent les recoupements qu'il faut pour dire si telle personne, lorsqu'il s'est exprimé, a prononcé une vérité ou non. C'est pas tout à fait du résumé de roman policier, mais ce sont déjà des fonctions de compréhension de texte qui sont assez évoluées.
Et pourquoi on a accusé les algorithmes d'être crétins alors pendant la présidentielle américaine et de pas avoir su faire la séparation justement entre les vraies nouvelles, les fausses nouvelles, l'info, l'intox, Morgan Tual?
Parce qu'ils n'étaient pas programmés pour ça.
Voilà.
Les algorithmes de Facebook, par exemple, ne sont pas programmés pour dire si une information est vraie ou fausse. Les algorithmes de Facebook sont programmés pour savoir si une information est susceptible d'intéresser ou pas la personne qui est connectée à Facebook.
Très différent, oui.
Voilà. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tout dépend de comment, effectivement, les gens de Facebook décident de programmer un algorithme ou pas. Là, en l'occurrence, jusqu'ici, ces algorithmes-là n'étaient pas programmés pour faire monter ou descendre des fausses informations.
Mais la machine sait faire, ou saurait faire, en tout cas, repérer... ce qui semble vrai et faux, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, Bertrand Braunschweig.
Et on travaille beaucoup dessus, effectivement, on commence à avoir des résultats. C'est évidemment un domaine assez sensible, hein, puisqu'il y a des enjeux derrière. Mais oui, en tout cas, c'est un sujet de recherche très actuel.
Oui, parce que ça, c'est quand même Morgan potentiellement Tual. un petit peu dangereux ou effectivement problématique que des machines, que si on développait une machine qui serait capable de dire bon, ça c'est une vraie information, ça c'est une fausse information, ça pose encore derrière plein de questions. Et deux, comment est-ce que ça a été programmé derrière? Est-ce que l'algorithme du coup est ouvert? Est-ce qu'il est open source? Est-ce qu'on peut aller fouiller dedans, voir
Absolument.
Quels sont les critères?
Rassurez-nous, monsieur l'ingénieur, rassurez-nous.
Non, mais ça veut aussi dire être capable de juger de la qualité des sources qu'on utilise. Et donc, ça n'est pas un sujet complètement réglé à l'heure actuelle. Mais il fait l'objet de recherches quand même très importantes.
Quel statut pour un éditorial de presse écrite, par exemple, où là c'est de l'opinion, mais appuyé normalement sur des faits?
Le problème, c'est que souvent dans la presse, les textes utilisent des langages imagés, des expressions sportives, par exemple. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué à interpréter.
Pour la machine,
comprendre qu'on ne parle pas de football et qu'on parle de politique, alors que les expressions sont jouées contre son camp.
Oui, c'est ça, oui. Ouais, Jean-Gabriel Galassia.
Oui, je crains ici que l'on essaye poser l'homme et la machine, et de voir en quoi la machine se substitue à l'homme. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas obligatoirement ça. C'est mieux comprendre la façon dont l'homme se sert de ses capacités cognitives, mais c'est aussi épauler l'homme, faire des choses que l'homme a des difficultés à faire. Et donc le fact-checking, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on sera capable d'aller dans les sources qui sont sur les réseaux sociaux, sur le net, etc., pour retrouver des éléments d'information. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera capable de tout apprécier. Et de même pour le journalisme, on peut utiliser les machines pour explorer des éléments d'information, pour aider les journalistes, et puis laisser aux journalistes à la capacité de scénariser l'information, d'écrire. Alors nous-mêmes, sans vouloir faire un peu de publicité, on est en train de mettre en place une bilicence lettres et informatique pour former des gens à la fois à la littérature et à l'informatique, avec de nouveaux métiers, dont le métier de data journaliste, donc qui serait capable à la fois d'être journaliste, des vrais journalistes, et d'utiliser les techniques de fouille de données pour explorer l'information et les bases de données.
Avant de donner la parole à Christian, une question sur Internet de Benoît. Une intelligence artificielle pourrait-elle gagner les primaires de la gauche ou de la droite? Point d'interrogation. Non? Ça vous laisse de marbre, il n'y a que moi que ça fait rire. Oui, Jean-Gabriel Galassia.
Je pense que quand des candidats veulent faire payer des taxes aux robots, à ce moment-là, je pense que l'intelligence artificielle ne serait pas du tout d'accord avec ça.
Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous. Je vais peut-être poser une question provocante, mais en continuité des craintes de Stephen Hawking. À vos invités, à partir de quel niveau de complexité la conscience pourra émerger chez des IA du futur?
Merci Christian pour cette question. Donc la conscience émerge à partir de quel moment?
Alors ça, c'est une question, bien sûr, à laquelle on n'a aucune réponse que l'on peut dire aujourd'hui. C'est que, d'abord, il y a plusieurs types de conscience. Et donc, on peut avoir une machine qui donne l'illusion qu'elle a une conscience parce qu'elle se comporte comme si elle était mue par une conscience. Mais les consciences, c'est bien d'autres choses. C'est, entre autres choses, le fait de s'observer soi-même. Hein, et ça, la machine peut le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis, c'est surtout le fait de ressentir un certain nombre de choses. Et ça, la machine ne le fait pas. Et on ne sait pas aujourd'hui, avec les technologies qui existent, comment cela pourrait bien advenir. Et c'est pour ça que les...
Mais
les
ça vous stimule, vous cherchez ?
Oh ben, bien sûr qu'il y a plein de gens dans le domaine des sciences cognitives qui essayent d'explorer la conscience avec des machines. Mais aujourd'hui, avec les technologies du silicium telles qu'elles existent, on est extrêmement loin de pouvoir approcher de ces phénomènes. Et donc, les craintes de Stephen Hawking, elles sont, je pense, exagérées. Hein, et on peut parler d'ailleurs d'autres esprits, d'autres autorités qui annoncent ce qu'on appelle la singularité technologique, hein, c'est-à-dire le grand soir, l'apocalypse de la technologie, et je pense que ça n'a aucun fondement.
Bertrand Braunschweig, sur la question de la conscience, vous travaillez dessus ou pas ? Enfin, ça vous stimule, ça vous stimule intellectuellement ?
Ce qui nous stimule, c'est plutôt la réflexion sur les valeurs que l'on devrait mettre dans les systèmes d'intelligence artificielle, les valeurs que devrait respecter un robot, par exemple. On aimerait bien, par exemple, j'aimerais bien que mon robot, si je l'envoie chercher une baguette à la boulangerie, et si sur sa route il tombe sur quelqu'un qui a une crise cardiaque, et il ait une valeur qui lui fasse réagir, et qu'il dit c'est peut-être plus important d'apporter secours à la personne qui est en ce moment en difficulté que d'aller acheter la baguette de Bertrand. Aujourd'hui, on se pose ce genre de questions de manière plutôt philosophique. Mmh. On n'a pas aujourd'hui les outils pour arriver à régler ce genre de questions.
On n'a pas réglé ces questions sur les voitures. On en est où ? Faut-il mieux percuter le piéton ou etc. Enfin, sont des interrogations morales quand même valides.
Ce sont les questions très très
signaler
classiques.
Signaler un infarctus sur le chemin de la boulangerie, c'est un souci éthique. Renverser quelqu'un en voiture quand on a une voiture automatique, c'est aussi une question légitime, j'imagine, non ?
C'est une question qui est beaucoup débattue dans le milieu de la voiture autonome, effectivement. Tout ce qu'on est capable de dire, c'est que on aimerait bien être capable de donner à ces véhicules automatiques des raisonnements de ce type, mais on en est aujourd'hui bien incapable. Et si on y arrive, ça ne sera pas le système lui-même qui sera responsable de la décision qu'il prendra, ça sera les personnes qui l'auront conçu qui prendront cette responsabilité. Mais aujourd'hui, on aurait beaucoup de problèmes à les implémenter, ces systèmes. Je pense que Jean-Gabriel a envie de compléter un petit peu.
J'ai cru comprendre que la machine réagissait comme l'être humain face à ce truc classique du piéton sur un... le piéton ou le mur, en substance.
Elle réagit à peu près
l'être
comme...
L'être humain préfère le mur, si j'ai compris.
On lui a dit de réagir. Hein, et donc, à ce moment-là, il y a toutes les possibilités. Mais ce sont des dilemmes pour l'homme, donc il n'y a pas de raison que la machine trouve une solution meilleure que l'homme. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ces machines autonomes, ces véhicules autonomes ne s'imposeront que s'ils diminuent la quantité d'accidentés, la quantité de morts, d'accidents de la route. Et si effectivement on diminue par 10 le nombre de morts, à ce moment-là, je pense que le problème ne se posera plus trop.
Morgan Tuel, non, vous voulez réagir sur les voitures, ces questions morales détour d'une rue ?
Ben moi, c'est plutôt que ça me pose une question parce que ces voitures circulent déjà aujourd'hui aux États-Unis en test, mais ça fait déjà des millions de kilomètres qui ont été parcourus par les Google Cars et d'autres. Et du coup, là, je comprends pas trop comment il est possible que ces voitures circulent sans que justement
ces problèmes-là aient été réglés.
Voilà, le problème de dans une situation ou dans certaines situations, est-ce que vaut mieux se mettre dans le mur et tuer son conducteur ou tuer une femme enceinte, par exemple, ou trois piétons ou cinq enfants. Voilà. Et je comprends pas trop comment on peut se passer de cette question et de l'implémenter de façon avec un programme en dur dans une voiture aujourd'hui. Est-ce que
du point de vue légal,
Jean-Gabriel Ganassia.
Du point de vue légal aux États-Unis, lorsque l'automatisme de la voiture est mis en service, normalement le conducteur doit garder les mains sur le volant. Ou alors, on peut faire circuler des voitures dans les déserts, là où il n'y a personne. Hein. Mais effectivement, hein, les questions éthiques que vous posez n'ont pas été réglées, parce qu'il n'y a pas de solution universelle pour régler ces problèmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce sont des dilemmes.
Et qu'on va avoir sans doute des affaires, des procès, des choses à suivre dans les mois ou années à venir autour de ces questions-là.
Certainement, mais disons, aujourd'hui, ce que l'on envisage, c'est les automatismes dans des situations particulières, par exemple pour se garer, ça existe déjà commercialement, ou dans les embouteillages, où là, bon, c'est extrêmement ennuyeux, hein, pare-choc contre pare-choc. Et,
oui, avancer, freiner.
C'est ça. Ou alors sur autoroute, hein, auquel cas, bon, il y a peu de chances qu'il y ait des piétons qui viennent traverser.
Oui, Bertrand Braunschweig, un mot, et puis Fabien au standard.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que les technologies, et en particulier dans le domaine du numérique, se développent à très très grande vitesse, et que on se doit de réfléchir aux conséquences. Et c'est vrai que l'ensemble du public n'est pas complètement aujourd'hui suffisamment armé, suffisamment informé, et que c'est vraiment important d'introduire ce genre de discussion dans la société. Donc c'est un des sujets sur lesquels on se doit travailler dans les temps qui viennent.
Fabien, bonsoir.
Oui, bonsoir. Une question pour vous inviter, en effet, sur quelle est pour eux la finalité à long terme de tous ces développements ? Est-ce que c'est une simple curiosité intellectuelle ? Ou est-ce que vraiment pour eux il y a une finalité? Donc, je suis moi-même ingénieur, donc je conçois bien le plaisir qu'il y a à résoudre des problèmes complexes, mais je pense qu'on ne peut tout de même pas mettre de côté l'aspect risque qu'il y a dans l'élaboration, dans ces élaborations-là.
Oui, la finalité, la responsabilité. Merci Fabien pour cette belle question. Très peu de temps pour y répondre, Jean-Gabriel Ganassia.
Ben d'abord, il y a des bénéfices pratiques que l'on tire tous les jours de l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle. Et deuxièmement, il y a une meilleure compréhension de l'intelligence en général. Ça, c'est la science. Je crois que ce sont les deux aspects. Mais effectivement, ça ne fait pas l'économie d'une réflexion générale sur la finalité de ce genre de travaux.
Comme conclusion partielle à notre réflexion ce soir, je vous propose ce tweet de Fabrice. Ça deviendra chaud quand la connerie artificielle sera au point, nous dit-il. C'est un domaine de recherche pour vous, non?
Non, mais ça doit être actuellement.
Mais ça n'est pas le nôtre.
Ça n'est pas le nôtre. Oui, mais c'est intéressant de réfléchir aussi à l'inverse de l'intelligence.
Tout à fait, non, bien sûr.
Les ressources sont infinies, oui, Morgan Tual.
Et puis on remarque que certaines intelligences artificielles finissent par être bêtes ou racistes ou
oui,
horribles.
Oui, méchantes, oui,
effectivement. Parce qu'elles s'inspirent, en fait, encore une fois, et récupèrent les données humaines qui, elles-mêmes, sont parfois idiotes, racistes, etc. Et donc on se retrouve avec des intelligences artificielles parfois très bêtes.
Merci à vous, frères et sœurs humains, d'avoir participé à ce Téléphone Sonne. Le journal est à suivre.